Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 8 décembre. Bonne journée et bienvenue au 98,5 avec un matin pas chaud. C'est autour de moins 8 actuellement avec un ciel nuageux. De la faible neige intermittente devrait commencer ce matin. Le maximum pour la journée autour de moins 6. Et pour les gens qui aiment calculer le refroidissement éolien, là, parle de moins 16 degrés. En soirée, neige intermittente. Au total, on parle de moins de 2 cm d'accumulation et autour de moins 8 pour la nuit prochaine. Demain, jeudi, nuageux avec quelques périodes de soleil quand même. C'est une pas pire de journée. Ça tourne autour de moins 5 degrés comme maximum et on prévoit pour la nuit de jeudi à vendredi de la neige. Il n'y a pas vraiment d'accumulation, mais il y aura des flocons, autour de moins 8. Et vendredi, ben, c'est de la neige intermittente, puis peut-être un peu de pluie, parce que ça tourne autour de 0 degré. Bon, hier, on devait parler de vaccination au point de presse de 13 heures, et puis finalement, le docteur Arruda a annoncé les consignes pour le temps des fêtes. J'ai envie de vous dire ce matin, après avoir écouté la conférence de presse, faisons appel au jugement des Québécois. On n'a pas besoin de se faire prendre constamment par la main pour tous les détails. Qu'est-ce qu'on nous a dit hier? On nous a dit la situation actuelle fait en sorte que vous pouvez recevoir des gens chez vous qui sont vaccinés, puis un maximum de 20. Puis hier, j'étais un peu sidéré de certaines questions du genre, oui, mais on dit aux gens, là, vous n'êtes pas obligé d'être 20. C'est bien clair, vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit d'être tout seul, vous avez le droit d'être 2, 3, 4, 5, 6. C'est un maximum qui est établi. Deuxièmement, je pense pas qu'on va aller cogner aux portes pour savoir combien de personnes participent aux festivités. À moins que ça soit un débordement, là. Puis je pense pas qu'on va retourner là, vers une forme de dénonciation des gens. Troisièmement, pour ce qui est des non-vaccinés, bien là, ça vous appartient. Parce qu'une fois que on vous explique que c'est pas idéal qu'un non-vacciné participe à une fête avec des personnes un peu plus âgées, vulnérables, qui ont beau être vaccinées, mais qui demeurent quand même à risque. C'est un paquet de considérations. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Puis faisons-nous confiance. Je pense qu'on a assez de jugement de savoir que le masque est important, que de se laver les mains, c'est important, puis qu'il y a une certaine distanciation qui doit être maintenue. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, le point sur le variant Omicron, on sait un certain nombre de détails, mais on n'en sait pas assez pour tirer une conclusion. Je vous disais hier, le docteur Carignan est venu un peu confirmer ça, que les premières indications nous parlent d'un variant qui est peut-être plus contagieux, et d'un variant qui serait peut-être moins sévère qu'est-ce qu'on avait anticipé. Et peut-être un peu comme le Delta. Alors, ça, c'est quand même, je pense, une nouvelle positive. Puis dans le fond, après les efforts collectifs qu'on a donnés, c'est-à-dire de respecter les règles, de se faire vacciner avec des pourcentages extrêmement élevés, puis on le voit, là, ça continue avec les enfants, c'est une période des fêtes qui, somme toute, risque d'être agréable. C'est sûr qu'il va y avoir une augmentation des cas. C'est sûr que le mois de janvier, au retour, là, on va se retrouver avec... Puis on le voit aux États-Unis, il y a eu la fête de Thanksgiving, même si le portrait est différent. Ben, c'est reparti vers le haut. L'autre élément, en fait, il y en a deux, pour être plus précis. Moi, j'insisterais, puis j'ai vu des médecins parler de ça, sur la ventilation des endroits où vous allez festoyer. Puis même en général aussi. Dans la mesure du possible, d'être capable un peu de faire circuler l'air, d'ouvrir les fenêtres, même en hiver. Je comprends, quand il fait froid, tu fais pas ça tout le temps, là. Mais c'est important, la ventilation. On en a parlé pour les écoles, passé à mon goût du côté du ministère de l'Éducation, mais c'est un enjeu, la ventilation, dans la propagation du virus. Et l'autre aspect, ça concerne les tests rapides. Là, on parle de 10 millions de tests. Je comprends qu'on privilégie les CPE parce qu'il n'y a pas de vaccin, puis il y a quand même bon nombre de cas de testés positifs. Mais je regarde en France, là, c'est la folie vers les tests rapides. Puis ça se passe en pharmacie. Des patients qui attendent pour un test de dépistage devant une pharmacie, c'est devenu là vraiment là les pharmacies en France puis dans en Europe en général sont devenues, et je cite le Monde ce matin, des avant-postes de la prévention. Et il me semble que avec tous ces d'ailleurs la santé publique, ça a pris bien du temps à ce qu'ils se décident à reconnaître l'utilité des tests rapides. Puis c'était comme les masques au départ. Vous vous souvenez, ah ben ça c'est pas nécessaire, puis finalement ben oui, il a porté donc le masque. Comme si on ne pouvait pas comprendre deux mesures. Puis c'est un peu la même chose pour les tests rapides. Ce n'est pas un test absolu, mais c'est toujours mieux que rien. Puis là, on s'en va vers des parties. Puis il y a des entreprises qui voudraient en avoir, puis il y a des familles qui voudraient en avoir, puis il me semble que c'est juste logique. Mais ce n'est pas parti pour ça. Ça ne semble pas être, disons, une priorité. Puis là, je comprends la logistique. Je parlais avec Benoît Morin tantôt de l'Association des pharmaciens propriétaires. La seule garantie qu'on a eue, c'est que ce serait gratuit. Il y a moyen de contrôler ça aussi, mais en tout cas. Maintenant, je veux reparler des centres de soins de longue durée. Deux aspects importants. D'abord, sur la bouffe. On parlait hier dans le Journal de Montréal de photos prises par du personnel, par des bénéficiaires ou par des proches, là, de trois centres. Paul Gouin, Paul Lisotte et Légaré. J'ai pas besoin d'insister, vous l'avez vu, là, c'est des photos dégueulasses. Ça ne reflète pas, je pense, ce qui est offert dans la majorité des établissements du Québec. Mais ça demeure infect, laid, c'est repoussant, puis c'est insultant pour des bénéficiaires. Qu'on ait pensé mettre ça dans une assiette puis transporter ça, c'est dégueulasse. Puis tout le processus, là, de la distance. Alors, on a appelé au CIUS du nord de l'île de Montréal. Puis évidemment, c'est toujours long. Puis on voulait parler avec M. Abergel, qui est le PDG. Dernière nouvelle, là, c'est lui qui est supposé répondre aux questions. Alors, ben finalement, il ne veut pas répondre à nos questions. Payé par nos taxes, en passant. Puis on voit dans certains cas comment la bureaucratie a ce réflexe naturel de se protéger les fesses. Et là, on est supposé croire, c'est ça qui est extraordinaire, là. On est supposé croire la version qui nous est fournie, que je vais partager avec vous. Alors, on nous dit que, puis là, ça ne prend pas, disons, une grande analyse, les repas tels que décrits et montrés ne répondent pas aux standards de qualité. Il me semble que c'est clair. Aujourd'hui, les photos sont prises des repas servis afin de nous assurer de la qualité de ceux-ci. Là, ils ont passé la journée à photographier les assiettes hier, pour être bien certain que c'était pour être correct. Nous augmenterons également la fréquence des audits de qualité. Actuellement, c'est 3 fois par semaine. Et là, on nous sort l'excuse pour les photos d'hier. Semble-t-il qu'un événement hors contrôle est survenu le dimanche 28 novembre. Le bris d'un extincteur qui a causé la dispersion de particules partout dans la cuisine a rendu les équipements inutilisables pendant plusieurs jours. Et là, on a dû s'adapter, changer de façon de faire en urgence et forcer de constater que certains plats servis n'étaient pas de qualité acceptable. Le mot est faible. Ils ont servi de la boîte. Je veux dire, c'est franchement dégueulasse. Et je sais que c'est pas comme ça partout. Là, on nous dit que c'est un incident. Mais comment, dans les protétus, on a pu arriver à servir ça? Je dis, ça n'a pas de bon sens. Pendant quelques jours. Là, on nous dit que la cuisine est à nouveau fonctionnelle depuis le 2 décembre. Et concernant la centralisation des cuisines, celle-ci a pour objectif d'assurer le contrôle de la qualité des repas offerts, tout en répondant aux défis de main-d'œuvre. Là, c'est les coms qui ont pondu cette phrase-là. Et là, c'est fantastique, la centralisation des repas. Alors, la décision n'a pas été prise au détriment de la qualité de la nourriture servie, puis blablabla. Et bref, ça ne correspond pas à ce qui est acceptable et ce qui est généralement proposé aux résidents. Nous prenons les mesures et nous n'accorderons pas d'entrevue. Alors, les deux mains ses fesses, on serre ça bien serré, là, puis on veut pas répondre aux questions. Sérieusement, là, je peux pas croire que Québec tolère ça. Ça m'amène à vous parler de l'autre volet. Grâce au reportage de Thomas Gerbet, on apprend qu'il y a des gens qui, dans la machine, rapidement, avant l'affaire Aaron, disaient « On va avoir un problème. On a des problèmes de main-d'œuvre, d'équipement. La pandémie va fesser. » Madame Mécan nous a raconté une histoire qu'une directive était descendue dans la machine à partir du mois de janvier. C'est le genre de mémo flou qui te protège si jamais il refait surface. Et quand on parle de la pertinence d'une enquête publique, ça s'impose. Puis j'ai vu les partis d'opposition hier le réclamer. Moi, je radote là-dessus depuis longtemps, mais je pense que c'est essentiel. La chaîne de commandement, la chaîne d'information, la chaîne de décision, quand une personne a su quoi? Quand le premier ministre du Québec a-t-il su ce qui se passait pour vrai dans les centres de soins de longue durée? Y a-tu réalisé ça quand Aaron est apparu sur la place publique? Est-ce qu'on l'a prévenu avant? Qu'est-ce qu'il savait? Puis qui a fait en sorte que l'info se rende pas, ou aussi vite que ça? Je rappelle les milliers de morts quand même. Puis même s'il y en a eu dans d'autres provinces puis dans d'autres juridictions, ça n'excuse pas la situation ici. Et je dirais, par souci de mémoire puis de respect des gens qui sont décédés puis de leur famille, le minimum, ce serait de faire une enquête publique. Je sais qu'ils ne le feront pas, là, parce que les élections s'en viennent. Mais bon, disons que c'est leur choix. Parfait, on poursuit notre revue de presse. Peut-être un mot sur le baseball, parce que hier, on a vu aussi les partis d'opposition s'opposer là, vraiment à ce qu'il y ait des fonds publics qui soient injectés, par exemple, dans la construction d'un stade. On se souvient, là, parle d'un projet des promoteurs d'autour de 1 milliard, d'un stade, mettons, de 500 millions, un peu plus, là, et une participation de Québec avec cette équation dont je vous parlais hier matin qui était dans la presse, là, de prendre les retombées de taxes, d'impôts, puis de dire on va contribuer, mais pas plus que ce que l'équipe va nous rapporter. Personnellement, je ne crois pas à ça. Deuxièmement, il y a un manque de transparence des investisseurs qui jouent dans les coulisses, mais qui ne viennent pas sur la place publique. Puis je ne veux pas tomber dans l'analogie que j'ai entendue hier, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, là. Comparer la boîte dans les CHSLD à un financement du baseball, c'est pas pareil. Je ne parle pas de la même chose. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de club de baseball, que la bouffe va être de qualité supérieure. Fait que, c'est un peu court là, comme conclusion. Mais je crois pas que ces retombées-là se calculent de façon aussi précise. Puis là, on parle de construire un stade pour une demi-saison de baseball. Qu'il y ait du baseball à Montréal, tant mieux. Ça serait une belle activité pour beaucoup de monde. Mais je pense pas qu'on doit se retrouver avec un investissement public puis des prêts pardonnables. Je veux dire, surtout que ça demeure encore un projet qui est pas clair parce que les promoteurs décident de fermer la lumière puis de pas nous dire ce qu'ils veulent vraiment. C'est au compte-goutte. Puis ils doivent rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On va surveiller aujourd'hui la fin des plaidoiries de la couronne au procès de la belle-mère de cette petite fille de Granby. Et hier, ce qu'on a senti à travers des notes qu'elle a envoyées, là, des textos, que la petite l'écœurait. Pas compliqué, que la petite était un paquet de troubles, puis des insultes dans les messages. Tout ça de la part de la couronne pour montrer que c'est pas la belle-mère, intentionnée, qui l'a échappé pendant une journée, là. Tu sais, ce qu'elle a fait, là, de prendre, enrubanner l'enfant puis de l'enfermer dans une chambre, ça n'a pas de sens. Ça, tout le monde reconnaît. Mais là, on veut montrer aussi la nature de la relation entre la petite puis sa belle-mère. Puis après quoi, les membres du jury vont aller délibérer. Dans la presse, ce matin, on nous parle d'un Montréalais qui est d'origine haïtienne, qui affirme avoir été battu, il a 73 ans, par un policier du poste de quartier 31. C'est arrivé plus tôt ce mois-ci, puis ça a l'air qu'il a demandé au policier de porter un masque. Puis le policier aurait pété sa coche. Et ça, c'est sa version à lui, là. Il est allé chercher sa femme à son travail vers 23h30. Et puis finalement, donc, il s'est immobilisé. Et le policier l'a comme bloqué le chemin, puis là, il y a eu escalade. Il dit que il a subi des coups comme ça, il a été battu. Et donc, il y a une enquête qui est ouverte là-dessus. Puis entre-temps, on va essayer d'en reparler ce matin, il y a une expérience à Longueuil, justement, où on voit, et c'est le chef Fadi Daguerre qui avait lancé ses projets d'immersion pour faire comprendre aux policiers la réalité nouvelle, le paysage longueuillois, comment la communauté a changé. Et tout ça pour prévenir. Puis là, ils ajoutent une coche, déploient sur le terrain des policiers pour faire en sorte que t'attends pas que ça dégénère. T'essaies d'intervenir avant, d'être prêt dans les quartiers peut-être plus défavorisés, où il y a plus de violence, pour, comme on dit, dégonfler la pression, puis de réduire par le fait même les appels au 911, puis d'être capable d'intervenir avant que ça soit tout à fait hors contrôle. Également, semble-t-il que notre ami du Mouvement des Jardins, le voleur de données, Sébastien Boulanger d'Orval, avait à peu près 30 000 $ comptant chez lui et qu'il y avait une vingtaine de cartes cadeaux ou des cartes de crédit prépayées, ça on le savait déjà, quand les enquêteurs du Mouvement ont fait leur saisie à son domicile en mai 19, puis il a tout avoué avoir vendu des renseignements confidentiels. Moi, cette histoire-là, là, ce gars-là n'est même pas accusé encore. Il fait toujours l'objet d'une enquête. Puis je ne reviendrai pas sur la collaboration entre la police et le Mouvement des Jardins, là. Mais il a tout avoué. Vous retrouvez ça dans la presse ce matin, pas mal de détails, puis un peu partout aussi. Alors voilà qui fait le tour de nos manchettes pour ce milieu de semaine.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, le point de presse hier devait porter sur le nouveau calendrier de vaccination pour la troisième dose. Ben, finalement, on a appris aussi que on donnait, disons, l'autorisation pour un party privé à l'intérieur, là, les fameux rassemblements, pour un maximum de 20 personnes vaccinées. Le directeur national de la santé publique, Dr. Horacio Arruda, est avec nous ce matin. Dr. Arruda, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que hier vous étiez prêt à donner cet avis et donc à permettre une certaine ouverture pour le temps des fêtes?
C'est en fin de compte, comme je l'avais dit initialement, c'était dans la semaine du 6 décembre que je pensais de faire ma recommandation. Dans la perspective, il faut quand même que les gens aient du temps pour se préparer. L'autre élément, c'est que je gagnais des données à chacune des journées là, pour voir est-ce qu'on allait, comment allait monter les cas, mais surtout qu'est-ce qui allait se passer en termes d'hospitalisation et qui sont intensifs, et ça, c'est resté stable. Et le lundi soir, on a eu des analyses nouvelles de projection de ce que ça pourrait être pour janvier, février, en termes d'hospitalisation, etc. Et avec ça, ben, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait en arriver à un allègement pour les personnes vaccinées, là, parce que le virus circule encore beaucoup, et moi, j'ai beaucoup de préoccupations pour les non-vaccinés, parce que c'est eux qui vont être malades et qui pourraient se retrouver à l'hôpital des soins intensifs.
En même temps, quand vous dites, et vous en êtes conscient, là, j'ai regardé le point de presse hier, un rassemblement que des gens vaccinés, dans les faits, on sait que ça sera pas tout à fait ça non plus. Là. Il y aura pas on n'ira pas voir le passeport vaccinal dans chaque foyer québécois. Là.
Ben, c'est très clair. Là, on est vraiment dans une période où je vous dirais de responsabilisation des gens. Les gens ont l'information. Les gens ont eu accès au vaccin. Et là, je pense que c'est, l'objectif, de, c'est pas de faire la police, mais c'est de recommander. Parce que moi, mon objectif, je vais vous dire très honnêtement, c'est de sauver des vies, puis de sauver des hospitalisations, puis c'est sûr que notre système de soins puisse continuer à fonctionner pour traiter les autres maladies. Fait que là, dans les faits, les gens, il faut qu'ils se responsabilisent, mais je dois le dire aux gens que s'il y a, par exemple, des vaccinés dans une salle, il peut avoir quand même du virus, parce que des gens sont pas malades, mais peuvent transmettre du virus. Et s'il y a un non-vacciné dans le groupe, bien, le non-vacciné a des grandes chances de se faire d'avoir la maladie. Fait que, dans le fond, c'est un service qu'on rend aux non-vaccinés. Mais là, vous comprenez là qu'on n'ira pas faire la police. Et quand on fixe à 20, je vous le dis, jusqu'à 20, on pense que 20, jusqu'à 20, c'est raisonnable. Mais si vous êtes capable de le faire à 15 ou à 10, tant mieux, parce que c'est un virus qui se nourrit de contact, puis il va circuler beaucoup, beaucoup. Les enfants actuellement sont atteints par, dans les écoles, on les vaccine, mais le vaccin n'aura pas son effet immédiatement. Oui, pour certains, moins pour d'autres. Et donc, les jeunes enfants vont peut-être être encore porteurs du virus et ça peut contaminer les individus.
L'autre question, avec ces rassemblements donc élargis, la multiplication des contacts durant le temps des fêtes, vous prévoyez quoi en termes d'impact là, sur le nombre de cas pour le retour en janvier?
Ben moi, très honnêtement, je prévois une augmentation. Bon, de quel ordre? Est-ce qu'on va se rendre à 4000 cas? Est-ce qu'on va rester à 1600, 1800? Ça va dépendre de, des facteurs que j'ai pas toutes les variables. On va voir l'augmentation du nombre de cas. Probablement une certaine augmentation potentielle des hospitalisations, mais pas de façon dramatique. On est quand même actuellement en deçà de beaucoup de nos capacités, mais n'oubliez pas qu'il y a la grippe, puis il y a d'autres virus qui peuvent venir, qui peuvent aussi venir congestionner le système de soins. Donc, je pense que ça, c'est un élément. La variable inconnue, c'est bien entendu le Omicron, qui est la variable inconnue, mais actuellement, on fait une intervention très intensive aux frontières pour essayer de diminuer. Si jamais il y a des cas qui sont criblés au Omicron au Québec, on les suit de façon très serrée, leurs cas, leurs contacts, on les isole pour éviter la transmission communautaire, pour gagner du temps, puis voir son impact, puis on va apprendre s'il est vraiment plus virulent ou s'il amène de la morbidité, mortalité, et surtout, comment il répond au vaccin au cours des prochaines semaines.
Mais par exemple, qu'est-ce qu'on sait là sur ce variant Omicron? Là, on peut lire, je comprends que c'est très préliminaire, là, mais on peut lire différents énoncés, genre il est très contagieux, mais peut-être pas si virulent. Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Ben, vous avez résumé exactement ce que moi je dis, ce qui semble sortir, là, mais comme vous l'avez dit, attendons parce que il est nouveau, donc il ne s'est peut-être pas exprimé dans sa totalité. Il serait beaucoup plus transmissible que le Delta. Ça veut dire que chaque cas va infecter plus de personnes que le Delta, parce qu'il est beaucoup plus transmissible. Par contre, on n'aurait pas encore observé de décès associés au Omicron. Et puis, on n'aurait pas observé non plus de grand impact sur les hospitalisations qu'on peut se démontrer. En Afrique du Sud, il y a une augmentation d'hospitalisation, mais on ne sait pas si c'est un effet de nombre ou vraiment un effet de virulence. Mais ça demeure à surveiller de très près. L'idéal, ce serait qu'il soit très transmissible, mais pas trop, mais très transmissible, peu virulent, pas pire que les autres, et que le vaccin réponde bien. Et à ce moment-là, ben la contamination naturelle servirait de vaccination pour la population non vaccinée, malheureusement. Mais certains se retrouveraient à l'hôpital, mais s'il n'est pas si plus virulent que le Delta, pas si décourageant.
Okay.
Ça demeure à des hypothèses. C'est très important de le dire, c'est des hypothèses.
Il y a beaucoup de gens qui, hier, dans les recommandations que vous faites, puis le rappel là, sur le port du masque, sur la distanciation, notamment quand les gens vulnérables ou âgés sont présents, vous n'avez pas assez insisté sur l'importance de la ventilation, d'aérer les pièces, même si c'est l'hiver, d'ouvrir les fenêtres, compte tenu du mode de... où, en fait, le virus se propage. C'est pas un élément central, ça?
Ben, je vous dirais, c'est un élément, il n'y a pas de contre-indication à le faire. C'est toujours bon d'aérer les pièces comme telles. Est-ce que c'est l'élément le plus important? Moi, je pense que entre la distanciation, si vous me permettez, et ça, la distanciation est au-dessus. Bon, il y a des gens qui vont dire non, c'est la ventilation, là, mais moi, je pense que c'est la distanciation qui a toujours bien fonctionné. Je ne dis pas que la distanciation garantit tout, mais dans le fond, combiner les deux, vous pouvez effectivement aérer la pièce.
Parce que c'est assez simple à faire, même en hiver, d'ouvrir pendant une certaine période, puis permettre à de l'air frais de circuler, puis de...
Tout à fait, puis indépendamment des virus et des bactéries, là, c'est toujours bon de changer les airs à l'intérieur de la maison, compte tenu de tous les produits qui mettent des émanations chimiques ou autres, comme tel. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une bonne recommandation.
Pourquoi ça a été si long avant qu'on utilise les fameux tests rapides qu'on stocke depuis si longtemps au Québec, puis là qu'on vient de demander un ajout au fédéral?
Les tests rapides sont, bon, probablement, juste vous dire que les tests rapides, au tout début, là, leur fiabilité était questionnée par nos experts, notamment en lien avec beaucoup de faux positifs, faux négatifs. Les technologies se sont améliorées. Il y en a distribué dans les écoles depuis un petit bout. Il y en a de distribués dans les garderies, là où il y a des éclosions. Dans les milieux qui sont touchés actuellement, il y en a distribués. Puis il va y avoir des ajouts qui vont être faits pour... je ne veux pas aller dans le champ de M. Paris, là, parce que c'est lui qui a les données actuellement. Là, mais il y a eu des demandes au fédéral. Puis effectivement, on va pouvoir fournir des kits à la population québécoise pour que les gens puissent s'autogérer en termes de symptômes éventuellement. Parce qu'il faut falloir en arriver à ce qu'on appelle une autogestion de cette maladie-là là, dans le système éventuellement.
OK, je veux juste bien comprendre. Me dites-vous que les tests qu'on va recevoir ou qu'on a commencé, la nouvelle cargaison, les tests sont meilleurs que les 2 millions de tests qu'on nous a envoyés la première fois? Ils sont différents?
Bien, ils ont des caractéristiques différentes, effectivement. Ils sont plus faciles aussi à être utilisés en termes d'autotests. Donc, il y a eu il y a plusieurs types hein, de tests rapides, là. Mais effectivement, maintenant, on a plus de données et dans les faits, l'objectif actuellement, compte tenu de la haute proportion de gens vaccinés, si jamais il y avait un faux négatif et qui serait positif, l'impact serait moins grand qu'au début de la pandémie où les faux négatifs allaient contaminer d'autres personnes.
Okay. On comprend qu'on les distribue notamment dans les CPE là, pour les parents parce que là, les enfants sont pas vaccinés, mais avec le temps des fêtes là, qui arrive, puis les rassemblements, puis on va pouvoir passer à 20. Pensez-vous, puis là, je vous demande pas d'entrer dans la logistique de M. Paris, là, mais pensez-vous que ça va être disponible pour les Québécois avant le 23 décembre?
C'est l'objectif visé.
Pensez-vous qu'on va l'atteindre?
Il y a de bonnes chances. Mais vous savez, il y a des affaires qui ne sont pas sous mon contrôle.
Non, je comprends.
Et je l'ai recommandé, dans mon avis. Est-ce qu'on voit la faisabilité à très court terme d'utiliser des autotests? Fait qu'on va voir.
Je veux juste vérifier quelque chose avec vous. On me dit que votre conjointe est médecin et elle a œuvré pendant la crise, là, dans les premiers moments, dans un centre de soins de longue durée. Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais c'est-à-dire que ma conjointe a pratiqué pendant très longtemps dans un CHSLD. Avant la COVID-19, elle avait arrêté pour se concentrer avec sa clientèle en clinique qui concerne beaucoup, beaucoup d'ailleurs de personnes âgées. Mais effectivement, quand il y a eu... la situation COVID-19, elle est revenue là, pour un site non traditionnel de soins à son CHSLD.
Puis est-ce qu'elle a partagé avec vous ce qui se passait, c'est-à-dire ce qu'on apprend là, par une série de reportages à Radio-Canada sur l'absence d'équipement, le va-et-vient entre les établissements? Est-ce qu'elle a été témoin de ça? Est-ce qu'elle vous a partagé ça?
Elle m'a dit qu'il y avait effectivement des... elle ne m'a pas parlé de manque de matériel. Je tiens au centre où elle était, là, elle n'a pas signifié ça. Elle a dit que c'était des situations complexes parce que les patients arrivaient, mais je veux dire, à son centre, elle n'a pas vécu nécessairement là où elle était les mêmes enjeux qui ont été dévoilés ailleurs.
OK, mais il y avait quand même des enjeux, j'imagine, de personnel puis de gens qui étaient...
Ben, ils se sont organisés. C'était pas nécessairement facile parce que ça mettait sous pression tout le monde, mais disons que les soins étaient donnés quand même de façon adéquate, puis à son centre, on n'a pas vécu les mêmes phénomènes qu'ailleurs.
Mais est-ce que ça a été suffisant pour sonner l'alarme chez vous, puis peut-être dire à la cellule de crise, dès le mois de mars, comme on voit dans certains courriels là, rapportés par Thomas Gerbet, ça va nous sauter dans le visage là, si on fait pas quelque chose?
Ben, je veux dire, juste peut-être vous dire qu'à ce moment-là, ma conjointe, au mois de mars, n'était pas en fonction dans ce centre-là. C'est venu que plus tard qu'elle est arrivée. Il faudrait que je revérifie la date exactement, là. Je pourrais aller vérifier la date, mais honnêtement, je pense qu'au 9, au mois de mars, elle n'était pas encore dans les unités de soins qui avaient été installées. Ce n'est que plus tard, je pense, en avril ou mai.
OK. Puis donc, son centre a été moins touché que les autres?
Oui, effectivement.
OK. Merci, Dr. Arruda.
Mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne période. Bye.
OK, merci. À vous aussi. Bonne période des fêtes. Docteur Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, à compter d'aujourd'hui, 17 premiers policiers réseau, on va vous expliquer ce que ça veut dire, vivront donc une immersion permanente au sein de la population à Longueuil. Et tout ça, évidemment, c'est de mieux comprendre la communauté et surtout, je dirais, d'intervenir avant que des situations dégénèrent et que ça se termine par des appels au 911. Fadi Daguerre est le chef du service de police de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Peut-être...
Non, vous l'expliquez mieux que moi.
Non, mais je vais vous laisser quand même l'expliquer en détail parce qu'on se souvient de projets pilotes que vous avez mis en place pour permettre justement aux policiers de dire, ben, prenez contact avec les gens pour qui vous travaillez. Mais là, c'est une étape supplémentaire aujourd'hui.
Oui, je vous dirais sincèrement, elle est nécessaire parce que 90% de nos appels sont de connotation beaucoup plus sociale que criminelle. En plus, nos services de police au Québec, mais en tout cas à Longueuil, on est à la gendarmerie et les enquêtes, donc on répond toujours en urgence. J'aime prendre l'image de... C'est comme si vous avez un système de santé qui n'aurait pas de médecin de famille. C'est vrai que c'est pas parfait, mais quand même. C'est comme si on n'aurait aucun médecin de famille, mais on va toujours à l'urgence. C'est un peu ça le principe de réseau d'entraide sociale et organisationnelle. C'est d'être là dans la communauté, un police-famille, qui est là avant les crises. Et comme le médecin de famille, je vais vous référer à des travailleurs sociaux, à un psychologue, à une infirmière spécialisée. On est en protocole d'entente avec plusieurs organismes qui vont nous aider sur le terrain. C'est vraiment faire en sorte d'éviter de se rendre au moment de la crise. Parce que présentement, tout ce qu'on fait, c'est de mettre un peu de patching sur les appels de 911, parce qu'on est toujours en urgence. Et c'est vraiment travailler en amont, avant les événements de crise.
Bon, j'imagine que pour les 17 policiers, on a déterminé des secteurs plus précis à Longueuil?
Oui, certains secteurs ont été déterminés. Il y avait eu plusieurs indicateurs. Certains endroits, c'est au niveau des facteurs de vulnérabilité, l'aspect populationnel, l'aspect immigrant, l'aspect niveau social, mais aussi, il y avait surtout, on a voulu évaluer pour être sûr de ne pas être tout seul sur le terrain. On ne veut pas prendre du terrain pour prendre du terrain, on veut le faire avec des partenaires. Donc, ça prenait un tissu social des partenaires qui est bien installé depuis des années. Et c'est vraiment s'assurer avec ces gens-là de faire un arrimage pour avoir du succès. Les policiers réseaux, la police ne peut pas rien faire de grand tout seul. Alors avec les partenaires, puis surtout dans une approche qu'on a enseignée à nos policiers lorsqu'on les a choisis, c'est humilité et modestie. Quand on arrive sur le terrain, l'arrimage va être très important parce qu'il y a des partenaires qui sont là depuis des années, puis on n'est pas là pour prendre la place. On veut vraiment être complémentaire à eux.
À quoi va ressembler une journée type d'un policier, d'une policière comme ça, réseau?
Bon, très bonne question. Il peut commencer dans un groupe communautaire qui ont des problématiques particulières avec une famille ou avec un jeune ou avec une communauté. Par la suite, il peut se rendre chez le coiffeur d'à côté parce que c'est, en général, le coiffeur ou la coiffeuse, le salon de coiffure, ils ont plein d'informations de problématiques émergentes dans le secteur pour voir comment ils peuvent travailler en amont. Par la suite, il peut aller dîner dans une famille avec des jeunes autistes parce que ils vivent des problématiques, puis ils veulent trouver des solutions, puis ils n'ont pas de ressources qui peuvent les aider. Je savais même pas, monsieur Arcand, que 49% de la population qui sont dans le besoin ne vont jamais vers les services. C'est un rapport de Douglas qui vient de sortir en 2020. Et quand je l'ai appris, je dis « Wow, on est vraiment sur la bonne voie, parce que si les services ne se rendent pas, les citoyens ne se rendent pas au service, mais on va se rendre chez les citoyens.
Comment vous croyez que les citoyens, qui sont ceux que vous avez identifiés, les quartiers plus vulnérables, vont réagir quand la police va intervenir? Est-ce qu'il y a une méfiance qu'il va falloir briser? Oui. Comment ça va se passer?
Oui, je pense qu'à certains endroits, on va avoir de la méfiance. Voir des policiers travailler différemment, voir des policiers aller sans appel, mais proposer de leur aide, et ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans le secteur? L'aspect communication va être très, très important, autant avec les partenaires qu'avec les citoyens, pour leur dire, écoutez, on n'est pas là sur le côté répressif, on n'est pas là pour intervenir, on est là pour aider. Alors, vraiment, la notion, la vision pour la population, il y en a qui vont être méfiants au tout début, c'est normal. Et ça, je m'y attends. Mais il faut que nous, on puisse baisser les barrières avec les partenaires pour leur expliquer c'est quoi notre rôle qu'on veut jouer avec eux.
Est-ce que ça a été dur de convaincre des policiers d'adhérer à cette approche puis d'en faire leur métier là, au quotidien?
Au début, je vous dirais que c'était très étrange comme approche, dans le sens qu'ils ne sont pas habitués du tout. Par la suite, il y a eu un engouement, mais à l'automne, nous avons eu un vote pour le projet, et le vote, il a passé à 56%, donc c'était extrêmement serré. Il y a eu de la résistance, mais moi, la résistance, je la prends d'une manière très humaine. C'est différent. Pourquoi changer de carrière? Parce qu'il faut comprendre que réseau, la personne peut décider de faire à partir d'aujourd'hui 15, 20, 30 ans de carrière dans ce domaine-là. Donc, de se déchirer de la patrouille, sortir de ses repères habituels, ça va demander un grand courage. Donc oui, 56%, ça a passé sur la fesse, mais je ne suis pas trop surpris, très surpris. Mais aussi, nos policiers nous ont dit, M. Daguerre, on n'est pas contre le projet, mais il y a plein d'irritants qu'on veut que vous régliez avant. Et c'est entre autres ce que je suis en train de faire présentement avec mon équipe et avec la base. On travaille sur les irritants majeurs qui se passent au niveau du SPAS. C'est plus des irritants techniques du quotidien qu'on doit régler. Mais les gens n'étaient pas nécessairement contre, mais ils vont plus être en observation.
On a vu, évidemment, les événements violents, la prolifération des armes à feu. Ce cas à Longueuil, quelqu'un tire à travers une vitre de bibliothèque. On a vu tous les cas à Montréal, ces adolescents, ces jeunes hommes. Est-ce que vous avez des problèmes similaires à Longueuil?
Non. Non, écoute, je touche du bois présentement en vous parlant. Non, j'ai pas de ce genre de problématique. J'en ai d'autres, mais j'ai pas cette flambée de fusillade à Longueuil. On en a eu une seule. Mais on n'est pas à l'abri, ça faut faire extrêmement attention. Toutefois, j'ai pas la même problématique. Est-ce que l'approche de réseau peut aider? Moi, je suis convaincu que quand vous mettez un policier réseau avec des partenaires, des groupes communautaires dans le fameux village d'une communauté, mais le jeune qui grandit, il voit son policier comme un policier de famille. Il l'a vu à l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans ou 12 ans, il rentre au secondaire, après il rentre au cégep, puis c'est le même policier dans le même quartier qui est toujours avec lui. Mais ça lui donne une image positive, puis il sait qu'il peut l'aider. Parce qu'il a été soit un coach pour l'aider, il a trouvé un coach, il a trouvé un sport pour l'inscrire, il a aidé les familles dans ses besoins. Puis, je me permets de vraiment ouvrir une parenthèse. Les gens ont peur qu'on devienne des travailleurs sociaux. On n'est pas des travailleurs sociaux, puis on ne sera jamais des travailleurs sociaux. On est en uniforme, puis on est armé. Par contre, on va être des acteurs sociaux si 82% de mes appels sont de 9-1, sont sociaux. Donc, on veut participer à la solution, mais bien en amont, bien avant les crises.
Non, mais le rôle est important. Prenons l'exemple d'un jeune qui se fait intimider à l'école, puis ça, sur les réseaux sociaux. Le travailleur social peut jouer un rôle, mais on n'arrête pas de parler depuis le début de ces événements violents, de la nécessité de la présence policière, puis aussi du travail communautaire. Vous en faites un mariage actuellement.
Là. Oui, on les marie ensemble. Parce que pour nous, l'aspect du travail des policiers sur le terrain avec les jeunes, bien avant qu'ils commencent à penser à tomber dans la mauvaise gang ou à utiliser des armes ou à se préparer à faire des mauvais coups, on veut lui proposer une famille versus une autre famille. Lui est en train de choisir peut-être la mauvaise famille, mais on est en train de proposer la famille plus des partenaires dont le policier réseau font partie. Puis le jeune, il va être inspiré, convaincu que les jeunes, ils ont des mentors dans la vie. Parfois, c'est un coach de soccer, parfois, c'est un parent, parfois, c'est un ami, parfois, ça peut être une police. Mais pourquoi ne pas proposer cette approche-là et voir si on peut l'amener dans la bonne gang?
M. Daguerre, merci. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir. Fadi Daguerre est le directeur du service de police de Longueuil.
L'essentiel de Paul Arcan.
Thank you.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je reviens sur les tests rapides. Vous avez entendu Dr Arruda nous dire que l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte, là, puis on comprend qu'on a priorisé les parents avec des enfants en CPE, mais donc de faire en sorte que les Québécois aient accès à ces tests rapides, parce que là, le temps des fêtes arrive, les parties vont commencer, les rassemblements vont se multiplier. Et je vais en parler avec Benoît Morin, qui est le président de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec. Benoît, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, qu'est-ce que tu penses du principe du test rapide?
Ben, c'est utile, c'est certain. Ça n'a pas la fiabilité ni la précision du test PCR ou le en français le test TAM, mais ça donne un résultat somme toute assez fiable. Ça donne un bon indice, mais c'est pas une finalité. Hein. Si on a un test positif, évidemment, faut aller le confirmer.
OK. Mais je voyais en France là, le rôle des pharmaciens, c'est comme une espèce de je sais pas comment qualifier ça, mais un incontournable dans l'arsenal face aux variants, puis donc permettre aux gens d'être testés plus simplement.
Oui, ben ici, c'est sûr qu'on a favorisé la vaccination, la stratégie vaccinale qui a été payante à date, mais là, je pense qu'on est rendu là. On est rendu à ce que les gens aient accès à ces tests-là, disponibles, prêts à le faire à la maison dès qu'il y a des symptômes ou avant de rencontrer des personnes à risque. Ça fait partie d'une stratégie un peu plus de retour à la normale aussi, je dirais. Là. C'est-à-dire que si les choses s'amélioraient et on voulait limiter, par exemple, l'isolement des gens, l'isolement des travailleurs, mais évidemment, les tests rapides, c'est une bonne stratégie parce que ça évite d'aller contaminer des milieux de travail, etc. Donc, ça fait partie de ça. Ici, bon, on vise une stratégie de distribution de tests gratuits pour que les gens puissent les utiliser. Je pense que c'est la bonne façon de faire aussi. Il faut que les gens puissent se tester et n'aient pas à se rendre à un rendez-vous nécessairement. Parce que ce qui arrive, là, c'est que, à moins d'être très, très symptomatique, tu vas aller faire la file ou tu vas prendre un rendez-vous pour un test PCR. Mais si tu avais un test à la maison, tu le ferais beaucoup plus rapidement. Là.
Question technique, j'ai demandé au Dr Arruda si, parce qu'on a toujours senti une réticence de la santé publique là, à distribuer, à permettre la distribution de ces tests rapides. Puis là, il me dit que les tests qui sont rentrés récemment, c'est différent, la technologie est différente que la première quantité reçue, là, les fameux 2 millions. Puis il y a des gens qui me disent que c'est pareil. Est-ce que tu sais si on a des tests différents ou c'est la même chose?
Ben la technologie, là, si on parle des là ce que je comprends sans en être certain, là, c'est que ça serait les tests BTNX qu'on appelle, là, ouais. qui sont des tests antigéniques. Évidemment, ils n'ont pas tous la même sensibilité, la même performance. Celui-là, il est performant. Je pourrais pas t'évaluer les autres qui sont arrivés en premier, là, ils sont tous un peu différents, mais celui-là, la technique est assez simple, même si c'est pas évident pour tout le monde. Là. Faut quand même faire un prélèvement nasal. La technique est plus simple, donc il y a moins d'erreurs techniques. La fiabilité, la sensibilité est bonne. C'est un bon test, mais encore une fois, ça n'a pas la sensibilité d'un PCR ou d'un test TAM. Fait que si, tu sais, par exemple, dans la première vague, ça aurait été moins utile parce qu'il fallait vraiment détecter de façon précise. Maintenant, les gens qui sont vaccinés ont moins tendance des fois à aller se faire tester parce qu'ils sont vaccinés. Donc, avoir un test à la maison, là, c'est sûr que ça va aider.
Et est-ce que tu as des discussions là, comme président d'asso avec le gouvernement là, pour justement la mise en place de la distribution?
Ben on a des discussions, c'est sûr. Là, on est un peu dans la dans établir qu'est-ce que le gouvernement veut comme service aussi. Est-ce qu'il veut une distribution simple, un contrôle de ces tests-là, des quantités données ou de l'enseignement? Là, on est un peu dans ces discussions-là. Je pense que le gouvernement envisage une distribution par les pharmacies, mais explore aussi d'autres façons, là, parce que Noël s'en vient, hein, on veut les distribuer avant Noël. Donc, 10 millions de tests, ou si on enlève ceux déjà distribués, on parle entre 5 et 7 millions. C'est quand même beaucoup de tests à distribuer. Donc, on discute sur le rôle des pharmacies, des pharmaciens, puis le rôle aussi, la façon qu'ils veulent que ça soit distribué.
Merci, Benoît. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Benoît Morin, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
L'essentiel de Paul Arcand.
On revient sur le procès de la belle-mère de la petite fille de Granby. On sait que la couronne a présenté ses arguments. Les membres du jury vont bientôt délibérer. Alexis Sanson, notre collègue de Trois-Rivières, est avec nous. Alors, donc, la parole est au juge ce matin, les fameuses directives, Alexis.
Oui, absolument. Et le juge avait déjà prévenu les 14 jurés d'arriver avec leurs valises ce matin au palais de justice de Trois-Rivières. Il y en a d'ailleurs deux qui auront fait leurs valises pour rien, parce qu'il y en a 12 seulement qui vont pouvoir délibérer. On en avait sélectionné 14 pour deux raisons. D'ailleurs, le contexte de pandémie, mais aussi les longues procédures. Ça fait presque 2 mois que le procès dure maintenant. Donc, on va en tirer au sort deux qui seront écartés des délibérations. Mais à partir de 9h ce matin, le juge va donner ses directives. Donc, on va passer à travers toute la preuve qui a été présentée au procès. Et ce sera aussi intéressant de voir l'arbre décisionnel qui sera présenté par le juge. Ça, ce sont les options de verdict possibles qui s'offrent au jury. Donc, la belle-mère qui fait face à des accusations de séquestration et meurtre au second degré. Donc là, ce sera l'opportunité de voir est-ce qu'on va pouvoir descendre jusqu'à homicide involontaire ou, par exemple, négligence criminelle. Ça, c'est ce que le juge va mentionner au jury ce matin.
Bon, c'est sûr que la défense nous a présenté un portrait de belle-mère pas mal... peut-être qu'il fait des erreurs, mais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, qu'il y avait une relation correcte avec la petite, puis qu'elle aimait la petite. Bon, la couronne nous dit que c'est pas pantoute ça.
Non, non, absolument pas. Et contrairement à ce que la défense disait, qu'elle aurait été enrubannée, la fillette, pour sa sécurité, pour la couronne, là, c'est complètement l'inverse. C'est clair que la belle-mère, elle était exaspérée par le comportement de la fillette, et c'est là qu'elle a décidé de l'enrubanner, la taper bien comme il faut, faisant référence à un message texte qui avait été envoyé plutôt par la belle-mère et qu'elle aurait été enrubannée donc au visage. Et la couronne, mais également le jury en garde, là, face au témoignage cousu de fil blanc, a dit le procureur, face au témoignage de la belle-mère qui, pour eux, c'est clair, là, avait développé une aversion, une animosité face à la fillette. Et à la base, le procureur dit à la base, là, est-ce que ajouter du tape sur une enfant, ça constitue pas un danger à causer la mort? Oui, il y a différentes causes de décès qui sont présentées par les deux pathologistes, que ce soit pour la couronne ou pour la défense, mais revenons à la base, pas de tape, pas de décès, a dit maître Jean-Sébastien Bussière. Et au tout début des plaidoiries, il a tenu à s'adresser aux 14 jurés et il leur a dit « Votre tâche, elle est fondamentale, pas seulement pour le système de justice, mais aussi et surtout pour la fillette. C'est un procès qui permet de faire la lumière sur la mort de cet enfant-là. La mort là, d'un enfant, c'est jamais facile, et dans les circonstances telles qu'ils ont été présentées, c'est inacceptable. » Donc lui s'est dit, je vais tenter de vous guider, messieurs, mesdames les jurés, pour répondre à deux questions fondamentales. D'abord, est-ce que l'accusé est coupable d'avoir séquestré ou emprisonné la fillette? Et deuxièmement, est-ce que l'accusé est responsable d'avoir causé la mort de la fillette? Il dit, c'est à vous d'en décider maintenant. Et en terminant, il a dit, j'ai une chose à vous demander, utilisez votre gros bon sens.
Là, pour la première fois, on a entendu là des textos percutants, c'est le moins qu'on puisse dire, là, envoyés par la belle-mère.
Ouais, c'est des textos qui avaient été déposés dans une grosse brique de documentation au jury, mais qui avaient jamais été lus depuis le début des procédures, des textos qui remontent à plusieurs mois avant les événements, envoyés par l'accusé à Casablanca. Et la couronne dit « Remarquez bien le dégoût, dans les textos qui sont envoyés par l'accusé lorsqu'il est question de la fillette. Et là, on a lu là, pendant près d'une vingtaine de minutes plusieurs textos. Et je ne vais pas tous les lire là, parce que ça a été très long, mais c'est des textos qui disent « Je suis pas capable de la regarder, juste sa face me décourage. J'arrive pas à la sortir, elle me lève le cœur. Je suis écœuré de l'entendre chialer. Elle me fait « Et donc, l'avocat ajoute par la suite « Demandez-vous si c'est vrai ». Quand l'accusé vous dit qu'elle aimait la fillette, demandez-vous si vous la croyez quand l'accusé vous dit qu'elle voulait protéger la fillette quand elle l'a enroulée de taille.
Merci, Alexis.
Merci.
Au revoir. Alexis Sanson, notre collègue de Trois-Rivières. Donc, après les directives, le jury se retire et va délibérer sur le sort de la belle-mère.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.